Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour David Abiker.
On est ravis de vous voir revenir dans ce studio que vous connaissez bien.
Mais oui.
Merci d'être avec nous ce matin. Pascal Bruckner, c'est votre deuxième livre sur la place de la victime dans la société occidentale après Le sanglot de l'homme blanc. Voici donc Je souffre donc je suis. Pourquoi vous insistez ?
J'insiste parce que le phénomène que j'avais détecté en 83 et puis que j'ai retraité en 1995, traité à nouveau, s'est amplifié considérablement et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé en 2015 après les attentats du 13 novembre, quand le chef de l'État François Hollande a proposé que les victimes des attentats du Bataclan et des rues alentour soient décorées de la Légion d'honneur. Donc le grand chef de la Légion d'honneur a refusé. Finalement, on a fait une médaille spéciale pour les victimes des attentats terroristes qui est quatrième dans l'ordre protocolaire avant la Croix de Guerre et avant la récompense des soldats qui se sont battus. Et je trouve que c'est intéressant parce que celui qui a subi une attaque, et c'est affreux, personne ne nie sa souffrance, est valorisé peut-être plus que celui qui s'est battu pour son pays. Donc vous avez été abattu, vous êtes honoré, et le malheureux vaut plus dans cette nouvelle idée que le valeureux. Et c'est un changement de mentalité, je pense que c'est un cap. Et il faudrait savoir si depuis 2015, depuis les attentats, justement, la figure du héros n'est pas en train de revenir tout doucement à travers les gestes extrêmement courageux d'un certain nombre d'individus, d'anonymes, de militaires, de pompiers ou tout simplement de citoyens français ordinaires qui risquent le tout pour le tout pour sauver leurs compatriotes en danger. Et à mon avis, ça c'est l'enjeu des années à venir. Est-ce que la figure de la victime, dont vous avez dit qu'elle était effectivement éminente, va être petit à petit équilibrée par celle du héros, de l'homme ou de la femme vaillante, qui sont prêtes à tout sacrifier pour aider les autres.
Pascal Bruckner, on n'en est pas là, puisque votre livre est d'abord un diagnostic de cette suprématie de la victime. Alors évidemment, les médias ont leur responsabilité, on compte les victimes, on donne la parole aux victimes. Vous le dites vous-même dans le livre, c'est l'honneur de la civilisation de s'intéresser aux victimes et d'être secourable. Mais comment expliquez-vous ce phénomène qui va au-delà de l'ère du temps, puisque vous y consacrez un deuxième livre? Il doit y avoir des tendances lourdes, fondamentales, dans la société française et occidentale, qui font que la victime est devenue une figure centrale du débat public et de la compassion publique.
Alors d'abord, c'est un héritage du christianisme, c'est la figure de Jésus, l'esclave, fils de Dieu, crucifié, et qui se bat pour tous les humiliés, pour tous les malades, pour tous les faibles. Et cette figure christique a été en quelque sorte consacré après la Seconde Guerre mondiale, quand en France, en tout cas, le déporté, révélé en 45, mais éclipsé par la figure du résistant, quand le déporté a triomphé dans l'opinion publique, et quand les citoyens ordinaires, quand les Français se sont dit, ma souffrance peut être d'une manière ou d'une autre comparée à celle d'un Primo Levi, d'un Robert Antelme ou d'autres, et avec cette tendance très contemporaine de mettre ses tracas ou ses soucis au niveau de ceux qui ont enduré les pires atrocités dans l'histoire humaine. Et ce qui aide aussi, ce qui explique aussi cette tendance, c'est la prédominance dans les années 80-90 d'un mouvement hérité des États-Unis, c'est-à-dire la prévalence de la justice, du juridique sur le politique. Puisque vous savez, les États-Unis sont une démocratie juridique où la Cour suprême régule l'ensemble des problèmes. Et donc aujourd'hui, c'est auprès des avocats, des juges, que les citoyens vont déposer leurs plaintes ou leurs doléances, parce que on est plus que jamais dans la société du cahier de doléances, et beaucoup moins auprès des politiques, parce que la confiance dans la capacité des partis politiques à changer le monde s'est érodée.
Et vous dites là en clair que la justice, la judiciarisation des rapports sociaux sont devenus un moyen pour la victime de se faire entendre, mais c'est un peu aussi le rôle de la justice. Ceci dit, on parle aujourd'hui beaucoup dans les médias de victimes présumées, ce qui est une notion qui n'a pas grand sens juridique.
Non, ça n'a pas de grand sens, mais beaucoup des mots qu'on emploie, le mot emprise par exemple, n'ont pas de traduction juridique et ne sont pas acceptés par la justice. Mais les médias, comme vous l'avez dit, sont un c'est le premier grand tribunal en France et dans le monde occidental, et c'est eux qui en quelque sorte décident des coupables et des victimes. Et il y a un premier temps de l'émotion, de la révélation, de la dénonciation, puis il y a un second temps de la justice qui départage, qui écoute les parties en présence, qui use du contradictoire, des preuves, et la justice très souvent innocente ou blanchit ceux qui avaient été accusés, mais on n'en parle plus parce que le temps de l'effervescence est passé, et on s'aperçoit que beaucoup de ceux qui ont été traînés dans la boue, je pense à Kevin Spacey, je pense à Luc Besson, ou même notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont été complètement innocentés par la justice, mais c'est pas grave, la mauvaise réputation continue à les suivre.
Pascal Bruckner qui publie « Je souffre donc, je suis », un essai sur la victimisation dans la société moderne. Vous évoquiez l'après-guerre, l'apparition de la figure du déporté, ça a mis du temps, il a fallu attendre le documentaire Shoah, il y a eu aussi Nuit et brouillard avant cela, mais ça a pris du temps. On la retrouve, cette problématique liée à la Shoah et aux martyrs des Juifs, depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, jour des massacres perpétrés par le Hamas en Israël, il y a depuis cette date une bataille des mots. D'un côté, on se bat pour imposer la notion de terrorisme, de viol, de crime contre l'humanité, contre les Israéliens. Et de l'autre, on veut à tout prix que les victimes civiles de la guerre à Gaza soient les victimes d'un génocide. Comment comprenez-vous cette bataille de mots et de faits, et comment penser juste ce conflit ?
Alors d'abord, il n'est pas question de minimiser l'atrocité de la condition de vie des Gazaouis, et je pense que c'est la responsabilité du gouvernement israélien d'assurer l'acheminement des vivres et des soins médicaux. Ça me paraît basique, puisque c'est eux qui sont maintenant les maîtres dans la bande de Gaza, même si le Hamas n'a pas complètement déposé les armes. Mais le conflit israélo-palestinien me semble typique de l'ère victimaire, puisqu'il ne s'agit pas de ce qu'il est en réalité, un conflit territorial, deux peuples pour une même terre, et donc il faudrait arriver à départager. Vous savez, j'ai beaucoup aimé le livre d'Amos Oz, « Aidez-nous à divorcer, divorçons pour qu'enfin nous puissions vivre en paix chacun sur notre lopin de terre ». Mais le conflit israélo-palestinien est depuis 50 ans un combat pour la couronne du paria. À qui va la couronne du paria? Est-ce qu'elle ira aux Israéliens? Est-ce qu'elle ira aux Palestiniens? Et donc, tout le sens des mouvements pro-palestiniens, en Occident notamment, consiste à dire, les Juifs ont démérité de ce titre, qui doit désormais revenir aux Palestiniens, et les plus extrémistes vont encore plus loin, puisqu'ils disent, les Juifs ont été persécutés par les nazis, et désormais, ils se conduisent comme les nazis. C'était le sens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'une pétition signée par Edgar Morin, Daniel Salnave et Sami Nahir au début du siècle, au moment de la seconde intifada. Et donc, on judaïse les Palestiniens, on nazifie les Israéliens, et évidemment, ça n'aide pas, cet enjeu symbolique n'aide pas du tout à comprendre la réalité du terrain. Et si l'on veut que la souffrance des Gazaouis cesse, il y a une chose très simple, il faut que le Hamas se rende, puisqu'il est quand même en grande partie vaincu. Mais de cela, je ne l'entends nulle part, parce que c'est lui qui a déclenché la guerre, c'est lui qui est responsable aussi de la rupture de la trêve, et c'est lui qui a massacré horriblement les gens dans les kibboutz du sud d'Israël, et qui continue à détenir des otages. Mais il y a une inversion complète de la figure de la victime et du bourreau, et on sait que le Hamas est prêt à sacrifier l'intégralité de sa population pour le maintien de sa structure militaire.
Pascal Bruckner, vous dites aussi qu'en Ukraine, c'est un peu pareil. Poutine s'est posé en victime du nazisme ukrainien pour justifier son opération spéciale. Ça fonctionne, la posture de la victime. Comment comprenez-vous, dans un tout autre domaine, l'invention par le gauchisme de la convergence des luttes victimaires? En clair, personnes issues de la diversité, LGBT, personnes racisées, femmes, tout ce monde se donne la main et fabrique une légion de victimes qui se battent contre l'oppression d'un seul, le mâle blanc de plus de 50 ans.
Ou même de moins de 50 ans, puisque il suffit souvent d'être blanc pour être a priori suspect. Ça, je pense que c'est l'innovation du wokisme, et ce qu'on a appelé l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire que quand une personne fait converger sur elle-même plusieurs souffrances, qu'elle est par exemple afro-américaine, handicapée, lesbienne, elle bénéficie en quelque sorte d'une onction victimaire a priori. Et quand vous êtes effectivement aux États-Unis blanc, vous bénéficiez d'un a priori très négatif. Alors, ce qu'il faut quand même dire à propos du wokisme, c'est que les plus grands réfutateurs de cette idéologie aujourd'hui, ce sont les intellectuels afro-américains. Ce sont eux qui disent, de façon assez intelligente, en fait, le wokisme, c'est un nouveau racisme de la bienveillance, de la condescendance, inventé par les élites libérales blanches pour se dédouaner des crimes de leurs ancêtres.
On n'en finit pas.
Et pour maintenir les Noirs américains dans un état d'infériorité. Et donc, effectivement, considérer une minorité sous l'angle de la souffrance en lui expliquant qu'elle ne pourra jamais sortir de sa condition, c'est une façon de l'enfoncer à jamais dans sa misère. Et c'est une très mauvaise manière de regarder l'émancipation.
Pascal Bruckner, on aurait pu parler des consommateurs qui s'opposent en victimes de l'inflation, des infirmières épuisées, victimes d'un management qu'elles n'acceptent pas à l'hôpital, des pompiers caillassés, victimes des voyous dans certaines cités, des policiers déconsidérés, des profs harcelés, de salariés épuisés, de petits entrepreneurs surtaxés, de syndicalistes exploités. En terminant votre livre, il y en a tellement des victimes qu'on n'a plus de compassion pour personne. C'est peut-être ça le risque, en fait. Comment retrouver la bonne compassion ?
Alors, d'abord parce que, là, vous avez raison, le mot victime est un mot polysémique, c'est-à-dire, c'est un mot, on est victime d'un accident de voiture, d'un accident de vélo, bon, on n'est pas handicapé à vie, enfin, dans le meilleur des cas, on est victime d'une fraude aux assurances, là aussi, le mot victime veut dire simplement qu'on a été la cible provisoirement d'une fraude, mais quand on est victime d'un assassinat ou d'un viol, c'est quand même quelque chose de très différent. Eh bien, je pense que c'est l'opinion publique, ce sont les juges, c'est la justice qui décide qui mérite d'être récompensé, qui mérite d'avoir le titre de victime, et ou les historiens, et qui ne le mérite pas. Et d'ailleurs, il faut voir comment dans l'histoire, les harkis, par exemple, ont longtemps été considérés en France comme des gens qui avaient simplement collaboré avec l'ennemi colonisateur. Et puis petit à petit, la France a reconnu qu'elle avait maltraité les gens qui s'étaient battus et qui étaient morts pour elle.
Pascal Bruckner qui termine son livre avec cette très jolie injonction. C'est autant de fers qu'il faut se préparer, ne fût-ce que pour les éviter. Nous sommes plus forts que nous le croyons, nos ennemis plus faibles qu'ils ne le pensent, mais notre plus grand ennemi est en nous. Il s'appelle l'affolement, la haine de soi, la complaisance au malheur. Merci Pascal Bruckner qui signait « Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros ». Ça vient de paraître chez Grasset. Pascal, à bientôt.
Merci David Aguilera.
À bientôt sur cette antenne. À suivre, rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres à 8h40. Aujourd'hui, Routel Krief et Marc Lambron, Radio Classique.